Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Assiste-t-on à la fin de Daesh, au début de la fin, à moins que ce soit le début d'une nouvelle guerre de 100 ans? Pas facile d'avoir une vision synthétique de l'offensive menée contre Daesh en Libye, en Irak et en Syrie. Raison de plus pour tenter de dessiner un tableau des forces en présence. Et pour ce faire, je suis en compagnie d'Agnès Levallois. Bonjour, vous êtes consultante et journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Et de Michel Goya, bonjour, vous êtes colonel. Bonjour. Vous enseignez l'histoire militaire de la guerre à Sciences Po. Vous avez un blog qui s'intitule « La voie de l'épée ». Alors pour vous, s'agit-il de la fin de Daesh, du début de la fin, d'autre chose?
C'est peut-être la fin du début. Vous savez, l'an dernier, sensiblement à la même époque, on tenait un discours à peu près similaire, disant voilà, c'était le plan incliné de la victoire était enclenché et Daesh allait bientôt être refoulé. L'armée irakienne, et plus exactement les milices chiites, avaient repris la ville de Tikrit au nord de Bagdad. Et voilà, et on s'attendait, on parlait d'une marche triomphale vers Mossoul à ce moment-là. Et puis patatras, quelques semaines plus tard, l'État islamique s'emparait de Ramadi, la capitale de la province d'Anbar, et tout était remis en question. Donc il faut être prudent. Effectivement, l'État islamique a subi un certain nombre de défaites sur le terrain, a subi un certain nombre de coups. Maintenant, le chemin est encore très long et très difficile pour reprendre le terrain occupé actuellement par Daesh. Et puis ensuite, il ne faut pas non plus confondre occupation du terrain avec victoire, parce que derrière tout ça, il y a aussi un certain nombre de paramètres politiques qui sont loin d'être, d'être abordés, en tout cas des problèmes politiques qui sont loin d'être dénoués.
Alors on va essayer de prendre les choses par ordre. Tout d'abord en Syrie, puisque c'est la première question qui se pose. L'État islamique aurait perdu quasiment 20% de son territoire depuis le début des opérations. L'État islamique est tenu à l'écart de la Syrie dite utile. Agnès Levallois, expliquez-nous, selon vous, quelle est la situation de Daesh dans ce pays?
Alors, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que cette organisation, effectivement, rencontre de grandes difficultés pour continuer son expansion et, au contraire, a tendance à se réduire. Et ça, pour une raison assez simple, c'est l'intervention russe, maintenant, d'il y a de nombreux mois, qui, dans un premier temps, cette intervention russe est concentrée contre l'opposition syrienne, contre les groupes qui s'opposaient à Bachar el-Assad, et qui, maintenant, commence aussi à s'intéresser, à régler la question de Daesh, ou en tous les cas, à participer à l'action internationale contre cette organisation. Donc aujourd'hui, Daesh en Syrie subit les coups d'un côté de la coalition internationale qui a été mise sur pied par les Américains, maintenant avec tout un tas d'autres pays alliés, que ce soit des pays occidentaux ou quelques pays arabes. Et aujourd'hui, la Russie et certaines forces de Bachar el-Assad essayent effectivement de participer à cette reconquête du territoire, puisque on sait bien que cette organisation a pu s'étendre en Syrie comme elle l'a fait, parce que le territoire avait été vidé du pouvoir de Bachar el-Assad. Celui-ci avait renoncé délibérément à contrôler la partie est du pays, donc toute la région qui est autour de Raqqa, qui est cette ville qui est aujourd'hui la capitale proclamée de l'organisation État islamique. Et donc maintenant que les Russes, en appuyant les forces de Bachar el-Assad, ont réussi à reprendre un certain nombre de terrains, ou en tous les cas à sécuriser ce qu'on appelle aujourd'hui la Syrie utile, c'est-à-dire Damas, la ville de Homs, qui est le verrou stratégique entre Damas et Alep et la région alaouite, on voit effectivement qu'il y a un certain nombre d'efforts maintenant qui sont dirigés vers cette région est du pays pour tenter de limiter l'expansion de l'organisation État islamique. Donc c'est vraiment cet élément-là qui a fait que la situation a beaucoup évolué depuis un an.
Donc un tableau plutôt satisfaisant en Syrie dans la lutte contre Daesh, mais malgré tout, car il faut amender ce tableau, l'armée syrienne libre, elle est cantonnée dans deux zones. Ces deux zones montrent que l'armée syrienne libre n'est pas du tout dans une situation favorable. Et ce qu'il faut voir, c'est que pour les populations locales, l'armée de Bachar est aussi féroce, sinon plus d'ailleurs, que l'État islamique, Agnès Levallois.
Bien sûr, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand je dis qu'effectivement cette organisation était islamique, islamique ne peut plus se répandre de façon aussi rapide qu'elle ne l'a fait au départ, ça n'est pas pour autant que la question est réglée et que cette intervention militaire de la coalition occidentale et aujourd'hui des Russes et la tentative appuyée en cela par les forces de Bachar el-Assad ne règle rien pour l'instant. On voit bien que de toute façon une simple intervention militaire ne permettra pas de régler la question de Daesh. Je ne crois pas du tout qu'on puisse imaginer que cette organisation va disparaître aujourd'hui en Syrie et en Irak simplement par ces différentes interventions militaires. Et il y a évidemment l'aspect politique qui est absolument essentiel et qu'il faut arriver à tarir ce qui fait l'intérêt pour un certain nombre de jeunes d'aller rejoindre les rangs de Daesh pour combattre. Donc c'est aussi ça. Et si on ne s'attaque pas à ça, évidemment les interventions militaires sont utiles mais sont évidemment insuffisantes.
Restons dans le domaine militaire, cette fois-ci en Irak avec vous, Michel Goya. Vous êtes colonel, vous avez un blog intitulé « La voie de l'épée ». Et là aussi, la situation est en train de changer. Il y a une coalition qui s'est mise en place avec le problème des coalitions, à savoir des intérêts qui ne sont pas forcément convergents. Il y a des forces kurdes irakiennes, les Peshmerga, des miliciens yézidis, les IPG kurdes syriens, avec donc toujours cette diaspora kurde qui aujourd'hui a un intérêt vital dans cette bataille d'Irak. Où en sommes-nous ?
Alors, effectivement, le problème, c'est qu'on a une multitude d'acteurs aux intérêts divergents. Même, vous parlez des Kurdes, mais les Kurdes, rien que dans le Kurdistan irakien, vous avez une tendance, vous avez le Kurdistan de la famille Talabani, qui est proche de l'Iran, vous avez le Kurdistan de la famille Barzani.
Les Kurdes ne s'entendent pas entre eux.
Proche de la Turquie, le PKK, qui est plutôt allié à Talabani et contre Barzani, les IPG qui sont une émanation du PKK. Donc, c'est un ensemble qui est beaucoup moins homogène que l'on peut penser. Ça, c'est un premier point. Ensuite, même du côté du gouvernement irakien, vous avez en réalité deux forces, deux tendances. Vous avez une tendance, du gouvernement, enfin du Premier ministre, Abadi, qui va s'appuyer plutôt sur l'armée régulière, mais vous avez une forte tendance aussi purement chiite, avec l'ancien Premier ministre Maliki est toujours présent et toujours important. Et vous avez en réalité deux armées irakiennes qui combattent sur le terrain. Donc, ne serait-ce que du côté de l'Irak, vous avez en réalité quatre armées locales, plus des milices yézidis que vous avez évoquées, etc. Plus des milices éventuellement sunnites. Donc, c'est un conglomérat local qui se superpose à une coalition elle-même assez hétérogène.
Alors, il y a aujourd'hui une action décisive et un point décisif, c'est la reprise de Fallujah. Expliquez-nous, Michel Goya, pourquoi la reprise de Fallujah est décisive dans cette bataille contre l'EI en Irak ?
Bon, alors, l'État islamique en Irak s'est implanté sur les villes le long des deux fleuves au nord de Bagdad, donc le Tigre vers le nord et le Frat vers l'ouest. Et il tient un certain nombre de villes, un chapelet de villes. Bon. Dans cet ensemble, la capitale, c'est Mossoul, qui est complètement au nord, qui est la capitale économique, je dirais, qui représente théoriquement plus de 2 millions d'habitants. Donc c'est vraiment le centre de gravité au sens militaire. Les Américains, eux, seraient, depuis toujours, ont été plutôt favorables à lancer une attaque directement sur ce centre de gravité. Et les Irakiens, eux, sont beaucoup plus prudents et préfèrent agir d'abord sur les villes à proximité, et en particulier Fallujah, qui n'est qu'à 50 km de Bagdad, de la capitale, qui a toujours été un foyer, j'allais dire, dur. Il faut quand même rappeler que les Américains ont été obligés de mener deux batailles féroces, très difficiles, en 2004 pour s'emparer de cette ville, que Fallujah était une des premières à tomber sous la coupe de l'État islamique au printemps 2014. Et donc, les Irakiens mettre la priorité sur la sécurisation, enfin sur la conquête de cette ville qui est encore une fois aux portes de la capitale et qui est aussi une base d'action terroriste contre eux. Maintenant, ce ne sera pas facile, hein, c'est-à-dire que si on prend exemple des...
Les batailles menées à Fallujah, car ce n'est évidemment pas la première, n'ont jamais été des batailles faciles.
Non, bien sûr, mais même les batailles précédentes, que ce soit Tikrit ou Ramadi, il a fallu au moins un mois de préparation, un mois de bataille directement dans les villes, et puis ensuite il faut encore réoccuper, nettoyer ces localités qui sont pourries d'engins explosifs, de combattants isolés qui perdent. Donc ce sont des batailles qui durent des mois. des mois. Il faut bien comprendre ça, quoi. Et paradoxalement, l'État islamique, pour l'instant, ça peut paraître paradoxal, mais ne résiste pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a relativement peu de combattants.
C'est peut-être aussi une stratégie.
Oui, c'est une stratégie. C'est-à-dire que l'État islamique ne veut pas non plus détruire complètement ses forces. Elle freine. En termes militaires, elle freine, elle retarde la chute qui est considérée comme inéluctable. Mais il y avait un millier de combattants à Ramadi, un millier de combattants d'État islamique à Tikrit. Il y en a peut-être autant à Fallujah. Donc voilà, il faut compter au moins un mois de combat dans cette ville.
Donc si on continue à dessiner le tableau, on a vu qu'en Syrie, les choses avançaient. En Irak, beaucoup reste à faire sur Fallujah et sur Mossoul, qui est la grande ville. Et là, la bataille de Mossoul est loin aujourd'hui d'avoir débuté. Agnès Levallois, il reste ensuite la Libye, qui est un autre théâtre d'opération. Et là, il y aurait aujourd'hui des forces étrangères à la Libye, françaises peut-être. En tout cas, on assiste à une bataille qui a débuté.
Oui, c'est-à-dire que l'objectif de la communauté internationale aujourd'hui, c'est d'essayer effectivement de défaire cette organisation sur les différents terrains. On a vu le Daesh s'installer en Libye, aussi en raison de l'affaiblissement de cette organisation en Syrie et en Irak. Et donc on voit que c'est une organisation, j'allais dire, assez pragmatique, dans le sens où quand elle voit qu'elle commence à être vraiment attaquée à certains endroits, elle essaye de se replier sur des territoires qui lui soient plus favorables, avec l'idée effectivement qu'elle n'a pas de combattants indéfinis, même si elle arrive à recruter. On a le sentiment aujourd'hui que le recrutement est un peu plus difficile qu'il n'a été il y a un an, parce que justement, elle rencontre plus de difficultés aujourd'hui à se maintenir sur le terrain, et que donc ça devient plus difficile aussi de pouvoir recruter des combattants extérieurs, étrangers, pour pouvoir l'aider dans sa bataille. Et donc c'est une organisation, moi ce qui me frappe depuis quand même qu'on parle de Daesh, c'est de voir que c'est une organisation qui combat très peu finalement. C'est-à-dire que quand on voit la façon dont elle se comporte, quand elle voit qu'elle va être vraiment en difficulté, elle a plutôt tendance à essayer de partir, à faire partir ses combattants, pour faire en sorte justement de maintenir son réservoir de combattants et pour pouvoir les déployer sur d'autres terrains et pour continuer justement à entretenir cette idée et cette réalité qu'elle peut être mobile sur différents terrains et inquiétée avec le sentiment qu'on n'arrivera jamais à venir à bout parce qu'elle a cette capacité relativement mobile. On voit que ce sont des combattants qui arrivent à se déplacer facilement d'un endroit à l'autre, de laisser un endroit si ça devient trop difficile pour se replier ailleurs et qu'on compliqué aussi la stratégie de la communauté internationale qui essaye de lutter contre elle. Donc elle gagne effectivement des positions et en même temps on voit cette agilité, si je puis dire, hein, à pouvoir se déployer. Et donc aujourd'hui effectivement un des terrains privilégiés c'est la Libye. On l'a vu aussi un petit peu dans la péninsule du Sinaï en Égypte, mais aujourd'hui c'est la Libye. Et là il y a aussi une prise évidemment en compte très forte de la part des pays européens parce que la Libye c'est vraiment là pour le coup aux portes de l'Europe et donc nécessité de réagir très vite pour empêcher que cette organisation puisse vraiment prendre le contrôle de la Libye.
Il y a effectivement la proximité de l'Europe, il y a aussi la proximité de la frontière tunisienne avec une démocratie tunisienne qui est extrêmement fragilisée par la présence de ces 3000 hommes. On parle d'environ 3000 hommes de Daesh présents aujourd'hui en Libye. Est-il envisageable, Michel Goya, cette fois-ci, de les défaire à brève échéance? S'agissant de 3000 hommes, cela paraît être assez peu.
Oui, ça paraît être assez peu. Alors, il faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres forces en Libye. Là aussi, c'est un ensemble assez hétérogène. Vous avez quand même deux gouvernements sur place, en plus de Daesh, deux gouvernements qui sont rivaux. Et l'État islamique est implanté un petit peu, d'ailleurs, géographiquement, entre les deux, plutôt dans le golfe de Sirte. C'est une base, effectivement... effectivement, géographiquement, c'est une base contre la Tunisie, contre l'Europe éventuellement, contre le Sahel aussi, c'est-à-dire que nous sommes français, nous sommes aussi engagés, il ne faut pas l'oublier, dans la défense des pays du Sahel contre l'État islamique, contre d'autres organisations qu'il ne faut pas oublier. On a un peu oublié Al-Qaïda dans tout ça, mais on est toujours en guerre contre Al-Qaïda et notamment au Maghreb, contre des organisations comme Al-Mouhabitoun, etc. Donc, toutes ces organisations, ce n'est pas l'État islamique qui a organisé les attentats en Côte d'Ivoire ou au Mali. Récemment, quoi, hein. Ce sont d'autres organisations contre lesquelles nous sommes en lutte et dont un certain nombre ont effectivement leur base aussi en Libye.
La liste de ces organisations donne un peu le tournis. Est-ce que c'est véritablement envisageable, Michel Goya, dans ces conditions, de remporter une victoire qui ne serait que militaire ?
Bah, encore une fois, non. C'est-à-dire que l'action des armes est évidemment nécessaire, mais n'est pas suffisante. Pour reprendre le cas de l'Irak, il faut quand même pas oublier que si l'État islamique existe, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que il n'est pas apparu comme ça par hasard. Bon, d'abord, c'est une organisation qui est ancienne, hein, qui date au moins de 2003. Mais cette organisation, en fait, elle a reprospéré. Grâce au soutien de la population arabe sunnite, une bonne partie de la population arabe sunnite locale.
On vous retrouve tous les deux à 8h15. Vous serez rejoint par Jean Lopez, qui est un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, car les batailles de Fallujah et plus encore de Mossoul, lorsqu'elle interviendra, reprennent les schémas de la guerre urbaine dont la bataille de Stalingrad a été le laboratoire. Et nous verrons en termes stratégiques ce qui a été développé depuis cette bataille de la Seconde Guerre mondiale, quels enseignements en tirer. Il est 7h56 sur France Culture.